journal Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Alexandre Benalla à la santé. L'ancien homme de confiance d'Emmanuel Macron a passé sa première nuit en prison pour avoir violé son contrôle judiciaire, alors qu'on attend aujourd'hui les conclusions de l'enquête du Sénat à son sujet. Ça suffit, ils l'ont dit par milliers hier soir à Paris, en région, ça suffit l'antisémitisme. Place à la parole d'Emmanuel Macron, très attendu ce soir au dîner du CRIF. Trois débuts d'incendie aux Arcs, 1800 cette nuit, 400 personnes évacuées et la piste criminelle déjà privilégiée. À 8h20, une joute littéraire et sociale. Nicolas, vous recevez Martin Hirsch.
Oui, le directeur général de l'APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Il publie « Comment j'ai tué son père » aux éditions Stock. C'est une réponse à un acte d'accusation formulé par l'écrivain Édouard Louis. On raconte l'ensemble de l'affaire dans le grand entretien de la matinale, dans 20 minutes.
À la une également, pourquoi se rendre au bureau quand on peut faire la même chose de chez soi? Le télétravail explose en France. UBS et les milliards d'euros soustraits au fisc, jugement rendu aujourd'hui. Chanel sent la garfelle d'un grand vide. Et puis enfermé avec des officiers dans un sous-marin nucléaire français, thriller militaire au cinéma aujourd'hui.
France Inter.
C'est une sorte de jeu de loi, pas très ludique à vrai dire, le jeu de loi Benalla, parti de la case Élysée, tout allait bien, avant une succession de mauvais pas, case contre-escarpe, case Tchad et passeport diplomatique, case Russie et affaires privées, pour arriver hier soir à la case prison. Alexandre Benalla à la santé, placé en détention provisoire pour avoir revu son acolyte Vincent Crase alors que la justice l'interdisait, de mystérieux enregistrements les ont trahis. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Florence.
Benalla en prison, c'est un tournant dans cette affaire qui empoisonne le climat politique depuis l'été.
Bah oui, parce que c'était l'un des carburants de la défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, exprimé par les Gilets jaunes. Le sparadrap Benalla n'est plus en liberté, cela met une distance au moins symbolique avec le président qui ne s'est plus exprimé sur le sujet depuis le mois de novembre. Alexandre Benalla derrière les barreaux, c'est aussi un symbole d'égalité. Enfin se réjouit le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Justice normale, la République exemplaire, c'est ça, c'est le fait que vous soyez puissant ou misérable, vous subirez les mêmes jugements de cour, et en l'occurrence, la justice suit son cours et c'est très bien.
Et en Macronie aussi, on respire, Florence, ouf, on n'aura plus de mauvaises surprises. Au fond, Benalla nous a fait du bien, me confiait même un haut responsable de la majorité, car il nous oblige à tout remettre d'équerre.
Et elle, il se trouve que c'est aujourd'hui que les sénateurs qui ont enquêté sur Alexandre Benalla vont rendre leurs conclusions, avec à la clé de nouveaux ennuis judiciaires probables pour l'ancien homme de confiance d'Emmanuel Macron.
Mettre d'équerre l'Élysée et sa sécurité, c'est l'objectif du rapport qui va être discuté dans les minutes qui viennent à huis clos par la commission du Sénat, puis voté, publication à 11h, avec à la clé des pistes, l'interdiction de recourir à des agents privés, par exemple, le contrôle renforcé aux frontières des passeports diplomatiques, et il y aura un autre vote, toujours à huis clos. Estimez-vous que M. Benalla vous a menti sous serment? Le oui ne fait aucun doute, avec pour conséquence signalement à la justice pour faux témoignage. Toute la question, c'est de savoir s'il y aura un ou plusieurs parjures. Le sénateur LR François Grosdidier voit large.
Quand le secrétaire général de la présidence, le directeur du cabinet, commence par nous dire au départ, M. Benalla s'occupe de tout sauf de sécurité. Et il s'occupe simplement du protocole lors de la réception du 14 juillet. Et puis après, qu'on se rend compte qu'il est toujours fourré à la préfecture de police, qui lui octroie une arme, et je vous parle pas de l'affaire des passeports, quoi, l'affaire des contrats russes, etc. Donc on nous a menti, quand je dis on, ce n'est pas que M. Benalla.
Alors, parjure aussi pour Patrick Stroda, le directeur de cabinet, pour Michel Delpuech, le préfet de police. La commission va en débattre. Réponse dans la matinée, ce sera alors à son président Philippe Bas de saisir Gérard Larcher, lequel convoquera le bureau du Sénat, c'est ce bureau, 26 membres, qui est habilité à transmettre au parquet des cas rarissimes de parjure.
Yael Gauze, chef du service politique de France Inter.
Il est 8h05, Florence, contre l'antisémitisme en France. Des milliers de personnes dans la rue hier soir.
Place de la République à Paris, à l'appel du Parti Socialiste. On y a vu une bonne partie du gouvernement et de l'opposition, les anciens présidents Sarkozy et Hollande, des associations, mais peu de jeunes, pour reprendre la Marseillaise, entonnée par le chanteur Abdel Malik. Des rassemblements en région également, parole de manifestants à Albi, Toulon et Bourgoin-Jallieu, recueillis par le réseau France Bleu.
Sous couvert souvent d'anonymat dans les réseaux sociaux d'abord, on a laissé dire des choses qui 15 ans en arrière auraient été inacceptables et sur lesquels le pays tout entier se serait levé pour dire non, stop, c'est plus possible. C'est pas acceptable. Il faut que ça s'arrête et moi je suis là pour dire stop.
Je cherchais un moyen de manifester mon désarroi, mon effroi aussi et ma colère. Les images que j'ai vues, les reportages à Paris, me font penser à d'autres images et que j'aurais bien aimé ne plus revoir. C'est complètement injustifié et indéfendable.
Ça m'attriste énormément et ça me fait peur également. Tout ressort, on a l'impression que tout ressort. Moi, ça m'effraie.
L'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, les droits des femmes bafoués. Je crois que nous vivons une période extrêmement compliquée. Il ne faut plus rien laisser passer. Nous sommes en train de construire une démocratie pour nos enfants qui aura énormément régressé et il n'est pas possible de continuer comme ça.
Et c'est en région également qu'on a vu Jean-Luc Mélenchon qui a participé au rassemblement de Marseille pendant que Marine Le Pen fleurissait la plaque à la mémoire d'Ilan Halimi assassiné à Bagneux. Ce soir, Emmanuel Macron est donc très attendu au CRIF après s'être recueilli sur les tombes profanées d'un cimetière alsacien puis au mémorial de la Shoah à Paris hier. Le président qui promet des actes et des lois. Encore faudrait-il qu'on applique celles qui existent, dit le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa.
Ça veut déjà dire appliquer la législation qui est déjà en vigueur dans notre pays, avec la plus grande fermeté, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, puisque nous savons que bien souvent, les auteurs d'actes antisémites, lorsqu'ils sont arrêtés et traduits devant les tribunaux, écopent très souvent d'un rappel à la loi ou de peines symboliques. Je ne crois qu'on ne peut plus se contenter de ça. C'est l'affaire de la nation tout entière. Et je pense que le président de la République prendra compte de cet appel de la nation et fera les annonces nécessaires pour que nous puissions engager l'ensemble de la société française dans le rejet définitif de l'antisémitisme et de l'ensemble des haines qui gangrènent la société.
Francis Khalifa, président du CRIF, avec Julie Pietri. On vient de l'apprendre, 3 départs de feu ont eu lieu cette nuit dans la station de ski des Arcs 1800. Plus de 400 personnes évacuées. Selon France Bleu, Pays de Savoie, le maire de Bourg-Saint-Maurice, Michel Giraudy, parle d'incendie très probablement volontaire.
Il y a probablement quelqu'un qui s'est amusé à mettre le feu, si on peut parler d'amusement. Donc j'espère que grâce au caméras et autres patrouilles, on pourra peut-être reconnaître quelqu'un passant d'un bâtiment à l'autre. Voilà ce que j'espère. Bien évidemment, ces actions sont déplorables. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Les pompiers ont été extrêmement réactifs, ainsi que les équipes municipales qui ont pu ouvrir la grande salle de congrès pour accueillir une demi-heure après les premières personnes qui étaient en attente dehors. Donc voilà, tout le monde était sur le terrain. Et je pense que pour les gens, il y a eu plus de peur que de mal et qu'ils vont pouvoir bien skier cette journée. Voilà.
Le maire de Bourg-Saint-Maurice chez nos amis de France Bleu, Pays de Savoie. Pas de transport en commun, pas de voiture. Et travailler en pyjama, si ça vous chante. Le télétravail explose en France, en hausse de 50% en un an, selon un sondage de la mutuelle Malakoff-Médéric. Des salariés à la maison, régulièrement, Delphine Simon, depuis que les règles ont été assouplies par les ordonnances Macron.
Près d'un tiers des salariés du privé télétravaillent en moyenne 7 jours par mois et dans 9 cas sur 10 à leur domicile. Le premier bénéfice qu'ils en retirent, c'est de réduire le temps passé dans les transports. Mais il y en a d'autres, explique Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation chez Malakoff Médéric Humanis.
Plus d'efficacité, plus de responsabilisation. Près de la moitié d'entre eux, en fait, y voient des intérêts financiers. C'est à la fois la réduction des frais kilométriques, pour certains, le fait de pouvoir déjeuner à un coût moins important à leur domicile.
Quant au manager, il plébiscite le télétravail à 85% lorsqu'il le pratique. Avec les ordonnances Macron, plus besoin de passer par un accord collectif. Mais la pratique quotidienne reste, elle, parfois complexe.
Les difficultés informatiques, les enjeux de sécurité informatique ou encore les formalités administratives, même si elles ont été allégées, sont encore perçues comme complexes par les dirigeants.
D'autant que désormais, en cas de refus, c'est à l'employeur de se justifier. Une mesure à double tranchant, selon elle.
On a rendu le système plus ouvert et pour autant, on voit bien que pour certains collaborateurs, ils ne sont pas forcément armés pour télétravailler.
Pour l'essentiel, les ordonnances Macron incitent à élargir l'usage du télétravail là où il existe déjà. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, les services et chez les cadres, reste à convaincre les plus réticentes, les petites entreprises.
Le télétravail, une solution aussi contre l'absentéisme, c'est-à-dire sur franceinter.fr. À l'instant, le parquet de Paris annonce l'interpellation du principal suspect, l'homme qu'on a vu insulter, Alain Finkielkraut, samedi à Paris, interpellé donc ce matin. Des milliards qui échappent au fisc grâce à des banquiers suisses. Jugement très attendu aujourd'hui du procès UBS qui envoyait ses commerciaux démarcher les fortunes françaises pour planquer leur argent. La banque risque des milliards d'euros d'amende. Sarah Guibaudot, enjeux financiers et judiciaires colossaux.
C'est d'abord un test pour l'efficacité de la justice. La fraude à l'impôt, c'est un vol contre la communauté nationale, a martelé le parquet national financier. Les négociations avec UBS pour une transaction pénale avaient échoué. Contrairement à HSBC, qui a payé 300 millions d'euros pour s'éviter un procès, et alors qu'aux États-Unis, UBS avait signé un chèque de près de 800 millions de dollars pour solde de tout compte. Pour le parquet financier, il faut donc que ce procès soit vraiment dissuasif. Or, si la réalité de l'évasion fiscale est incontestable, près de 4000 clients français d'UBS sont passés par la cellule de dégrisement de Bercy, qui a récupéré 3,7 milliards d'euros. La démonstration à l'audience n'a pas été toujours évidente. Les débats semblaient déséquilibrés entre le nombre d'avocats en défense et l'absence des lanceurs d'alerte. Le jugement sera aussi scruté par le monde de la finance, alors qu'avec le Brexit, une partie des activités de la City pourrait venir à Paris. Tout le monde va regarder ce qui va arriver à UBS, a prévenu la banque dans le journal Les Échos. Une tentative de faire pression sur la justice que le parquet national financier n'a pas vraiment apprécié.
Sarah Guibaudot, au camion qui fume, ça n'est pas seulement un nom de food truck, c'est aussi une réalité qui sent mauvais sur les routes d'Europe et l'Union veut changer les choses. Sandy Dauphin, un accord a été trouvé hier à Bruxelles pour réduire de 30% les émissions de CO2 des poids lourds et des autocars neufs d'ici 2030.
Les constructeurs de camions vont devoir réduire les émissions de CO2 de 15% d'ici 2025, de 30% en 2030 par rapport au niveau d'aujourd'hui. Une victoire en demi-teinte pour l'ONG Réseau Action Climat, Agathe Bounefour.
C'est une satisfaction dans la mesure où le secteur est pour l'instant complètement exonéré de réglementation sur les émissions de CO2, alors même que cela représente environ 25% des émissions du transport routier, mais on aurait pu aller plus loin.
Pas assez pour les ONG, trop pour l'Association des constructeurs européens d'automobiles. On peut imaginer des utilitaires électriques, mais que faire des 33 tonnes, demande Éric Jonart de la CA.
Pour des grands camions, il faut évidemment des grandes batteries qui en fait réduisent le volume des biens qu'on peut transporter. On ne voit pas où ce serait possible.
De son côté, la Fédération française des transporteurs routiers estime qu'il n'y a pas une bonne solution, mais plusieurs. Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR.
Il n'y aura pas qu'un seul carburant ou une seule motorisation pour remplacer la motorisation diesel, mais plusieurs en fonction des usages et des flux. Nous, nous regardons du côté du gaz naturel véhicule.
Ces normes européennes de CO2 pour les camions ne font pas l'unanimité. La filiale camion de Volkswagen prévient des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu.
8h14, Florence, le sigle Chanel, noir comme le deuil depuis hier.
Comment faire sans Karl Lagerfeld, qui en était le grand Manitou depuis 1983, sa mort laisse un immense vide dans cette vieille maison de mode, Jacqueline Pétrose.
La maison Chanel a déjà annoncé que Virginie Viard prenait l'intérim. Bras droit de Lagerfeld depuis 30 ans, c'est elle qui avait salué lors du défilé du 22 janvier en l'absence du créateur. Une nomination sans doute provisoire, la succession sera difficile. Lagerfeld ferme la porte d'une période bien écrasante pour les jeunes. Yann Kerlo, spécialiste de mode.
Cette génération de Givenchy, Christian Dior, Saint Laurent, etc., etc., ils ont fait un peu à la façon de Picasso. Picasso a écrasé le XXe siècle par son talent et par sa production et sa créativité de tous les instants jusqu'à sa mort.
Le nom qui revient le plus souvent est celui d'Eddie Slimane. C'est pour entrer dans ses jeans, disait Lagerfeld, qu'il avait perdu plus de 40 kilos. Mais il vient d'arriver chez Céline et ne devrait pas repartir aussi vite. Le propriétaire de Chanel, Alain Vertemer, pourrait prendre son temps. Il n'a jamais mis la pression sur Karl Lagerfeld, qui reconnaissait en avril dernier dans Quotidien qu'il travaillait beaucoup, mais que son luxe, c'était son contrat.
Je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Vous savez, ça n'existe pas beaucoup. C'est pas comme ces chaises musicales, au bout de 3 ans, la porte et tout ça. Moi, je fais ça à vie. C'est parce que j'ai des contrats à vie.
La maison Chanel va devoir relever un immense défi, trouver la perle rare qui lui permettra de garder son indépendance face aux grands groupes financiers.
On a été courageux et solidaires, ça nous permet de rester en vie. Qui a dit ça hier soir? C'est Bruno Genesio, entraîneur de Lyon, après un match nul de haute lutte face au Barça en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. 0-0, c'est déjà ça, face au quintuple champion d'Europe, match retour à Barcelone le 13 mars. Enfin, Nicolas Claustro germophobe s'abstenir si vous ne voulez pas passer 2 heures enfermé dans un sous-marin nucléaire. Évitez cette semaine au cinéma Le Chant des Loups d'Antonin Baudry. Mais ce serait dommage de passer à côté de ce thriller militaire porté par Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz et François Civil notamment. Corinne Pellissier, voilà un film qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir en français sur les écrans.
Il est là.
Les réalisateurs français nous ont peu habitués à ce genre de scénario à gros budget dans le périmètre exigu d'un sous-marin nucléaire. Son atmosphère, son langage, ses codes. Un pari audacieux pour Antonin Baudry qui s'offre avec ce premier film un thriller d'action et un casting très prestigieux. Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy et François Civil dans le rôle de l'oreille d'or.
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du captain.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales,
je sais.
Il est celui à bord qui entend tout, reconnaît tous les bruits et peut différencier en l'espace d'une seconde un sous-marin d'un navire et même préciser le type d'armement qu'il transporte.
Le fond du loup, elle nous a détecté second.
Poste de combat, tu diffuses, on doit récupérer les nageurs, c'est la mission.
Un jour pourtant, il commet une erreur de diagnostic et tout bascule.
Nous avons été pris au piège.
Démarre alors une grande aventure humaine à huis clos, une incroyable course contre la montre sur fond de menaces nucléaires. Pas toujours crédible, mais à l'atmosphère suffocante. Un film d'action sur le thème de la confiance, de l'amitié, dans lequel le réalisateur continue d'explorer les enjeux diplomatiques du moment. Après avoir décrit dans la BD Quai d'Orsay son métier de conseiller, Antonin Baudry s'intéresse aujourd'hui avec beaucoup de détails au monde de l'armée et à son protocole, pas toujours facile à suivre et sur lequel il porte un regard très dur.
C'est ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système.
Le parcours désespéré d'un équipage broyé par le système.
Il faudrait que je neutralise ces gamins.
C'est nos frères en face là.
C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce genre de tir.
Oh là là, on en frémit d'avance, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos.